La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes le 6 mars 1815, en fin de soirée à Vienne, là où les grandes puissances d'Europe sont réunies, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France. On est en plein congrès, il s'agit de trouver des solutions pour amener et garantir la paix en Europe. La réunion qui a eu lieu quelques heures auparavant a été assez apaisée. Les délégués ont pu dîner et un bal a même été donné. Ensuite, tout le monde est allé se coucher. On pensait pouvoir dormir du sommeil du juste. C'était sans compter le coup de tonnerre qui allait résonner en pleine nuit, Napoléon a quitté l'île d'Elbe. On ignore où il se trouve.
Tête de colonne, à gauche! À gauche! En patrie!
Et pour évoquer cet épisode avec nous, Thierry Lenz. Bonjour Thierry Lenz.
Bonjour.
Vous êtes un grand spécialiste de la période napoléonienne, directeur de la Fondation Napoléon, et vous publiez chez Perrin aujourd'hui Waterloo 1815. On aura évidemment d'ici quelques mois et dans les mois qui arrivent là, l'occasion de revenir sur la bataille en elle-même. Aujourd'hui, on va donc partir du congrès de Vienne où au premier jour de mars 1815, les représentants des États européens sont réunis. Ça fait plus de 6 mois que cela dure. Qu'est-ce que c'est que ce congrès de Vienne ?
Le congrès de Vienne, c'est la plus grande réunion diplomatique de tous les temps. Il n'y en avait pas eu avant, il n'y en a pas eu depuis, qui était nécessaire pour redessiner, réorganiser l'Europe après les guerres de la Révolution et de l'Empire, qui avaient vu disparaître des États, naître des États nouveaux, des souverains être déposés, etc. Et donc, on avait décidé, bien avant la défaite de Napoléon, que une fois celle-ci consommée, on réunirait tous les États européens pour essayer de retricoter une nouvelle carte.
Et on arrive à des solutions, enfin on est plutôt optimiste.
Alors on a beaucoup travaillé, le congrès a commencé effectivement au mois de novembre, mais dès le mois de septembre les diplomates étaient à pied d'œuvre. On s'est beaucoup disputé, on s'est beaucoup chamaillé, les quatre grandes puissances de l'époque, la Russie, l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse, voulaient tout diriger, les autres n'étaient pas d'accord, il y a même eu un délégué français, Talleyrand, qui est venu mettre un peu de bazar dans tout ça. Et puis finalement, au moment où nous apprenait que Napoléon a quitté l'île d'Elbe, on avait pratiquement aplani toutes les difficultés. Ouais. On était passé à la phase de rédaction du traité final.
Alors à quelques centaines de kilomètres de Vienne, donc Napoléon, lui, règne sur l'île d'Elbe. On va revenir sur cet épisode. Comment se passe cet exil de Napoléon sur l'île d'Elbe ? Parce que c'est assez croquignolesque, je dirais.
Oui, c'est presque pathétique, ouais. À certains moments. Hein. Rappelons-nous que cet homme a gouverné plus du tiers de l'Europe. Il avait un empire de 40 à 50 millions d'habitants. Et puis il se retrouve du jour au lendemain empereur, car on lui garde son titre, mais empereur de l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, à l'époque de sa splendeur, c'était une sous-préfecture, 15 000 habitants, pratiquement pas de ressources. Bon, une île qu'on jugerait, nous, aujourd'hui, fort agréable dans la Méditerranée. Mais enfin, Napoléon n'était pas allé y faire du tourisme. Et après, on va dire, quelques semaines de repos, parce qu'il avait été bien fatigué par les événements précédents, il s'est mis au travail. Alors, il a essayé de gouverner cette île, mais bon, pour lui, évidemment, tout ça était assez facile à gouverner, ouais. Finalement. Il a fini par s'ennuyer et à se demander comment il pourrait relancer sa vie, en quelque sorte.
Il fait paver les rues, notamment, dites-vous, rappelez-vous, dans votre ouvrage. Alors, évidemment, il n'a pas le droit de quitter l'île d'Elbe.
Alors, tout ça, c'est un peu compliqué parce que, contrairement à ce qui se passera au moment de son deuxième exil à Sainte-Hélène, à l'île d'Elbe, Napoléon est un souverain internationalement reconnu. Donc, a priori, on n'a aucune raison de l'empêcher de voyager, de l'empêcher de bouger, etc. Mais bon, il est vrai que les puissances se méfient quand même de lui. Il a été envoyé à l'île d'Elbe, c'est par la générosité du tsar de Russie, qui n'a pas voulu qu'il soit prisonnier, qu'il soit exilé plus loin, etc. Mais les autres États européens se rendent bien compte du danger que ça représente. Il est à 12 kilomètres des côtes italiennes. Donc, il n'a pas encore à ce moment-là envisagé évidemment de voyage, mais il est relativement libre. Il y a juste un commissaire anglais que Napoléon a souhaité garder auprès de lui, qui vient lui rendre visite de temps en temps, puis qui évidemment l'espionne un peu et même l'espionne beaucoup.
Officiellement, on ne parle jamais de Napoléon au Congrès de Vienne, mais on y pense beaucoup. Alors arrive cette nuit du 6 mars 1815. Donc, comment est-ce qu'on va apprendre, donc Napoléon a quitté l'île, comment est-ce qu'on apprend la nouvelle à tous ces grands d'Europe?
Alors, le premier à l'apprendre, c'est Metternich, qui reçoit un courrier de son consul à Livourne. Et donc, il fait réveiller les autres. Le problème, et vous le signaliez tout à l'heure, c'est que, on sait que Napoléon est parti. C'est le fameux anglais, le colonel Campbell, qui a donné l'alerte. On sait qu'il est parti, mais on ne sait pas où il est. Ouais. C'est-à-dire que on sait qu'il est parti avec ses soldats, donc à peu près un millier d'hommes, qu'il vogue vers quelque part, mais on ne sait pas où. Et la première idée des gens du Congrès de Vienne va être qu'il est allé en Italie. Et c'est d'ailleurs vers l'Italie que les premiers efforts vont être consentis. L'armée autrichienne va être mise en alerte, on commence à envoyer des troupes là-bas. Personne n'imagine que c'est vers la France que Napoléon se dirige.
Mars 1815, donc le retour de Napoléon, nous sommes avec Thierry Lenz.
Les grenadiers de la vieille garde à Waterloo.
Jusqu'à 14h30, un jour dans l'histoire, sur la première.
Un extrait ici de l'émission Boulevard du Temps, c'était le grenadier de la vieille garde. Nous sommes avec Thierry Lenz, donc le 7 mars à 10h, Thierry Lenz, les 5 ministres anglais, autrichiens, russes, prussiens et français, donc à savoir Metternich, Wellington, Nesselrod, Hardenberg et Talleyrand, se réunissent. Comment vont-ils réagir? Est-ce que cette belle alliance va pouvoir se poursuivre?
Alors, tous les témoignages qu'on a sur cette première réunion, cette première demi-journée, confirment qu'il y a eu une espèce de vent de panique. C'est-à-dire que, à la fois, on ne savait pas où allait Napoléon, on ne connaissait évidemment pas ses intentions, et le premier mouvement de tout le monde a été de rejeter la responsabilité sur l'autre. Alors, on a d'abord critiqué les Russes pour avoir laissé l'île d'Elbe, ensuite on a soupçonné les Anglais d'avoir laissé fuir Napoléon, et finalement, le seul qui, dans ce grand moment de stress, a fait preuve de sang-froid et de réflexion, c'est le délégué français, c'est Talleyrand. C'est lui qui réussit dès les premières réunions à faire comprendre aux délégués que c'est pas la peine de se disputer, on a un problème, il faut maintenant le traiter. Et on va le traiter assez vite, en 2 ou 3 jours, le sort de Napoléon sera réglé.
Malgré toutes ces arrière-pensées que vous venez d'évoquer, là, on prête quand même serment d'organiser la mobilisation européenne contre ce fugitif, Napoléon. Napoléon qui va reconnaître plus tard qu'il a commis une erreur, laquelle?
Il a commis une erreur, c'est de rentrer alors que le Congrès était encore réuni. Alors, il y a plusieurs raisons qui l'ont poussé à hâter son retour. La première, c'est qu'il n'avait plus d'argent. C'est qu'il n'avait plus d'argent pour payer ses troupes, pour payer son gouvernement, qu'il craignait qu'on vienne l'enlever pour l'emmener à Sainte-Hélène. Les journaux avaient déjà parlé de Sainte-Hélène au mois de novembre. Et puis, probablement, et d'ailleurs lui-même le dit ensuite dans ses mémoires, il a cru que le Congrès était en train de se séparer. Et évidemment, si le Congrès s'était séparé, si les monarques qui étaient présents à Vienne ou les ministres étaient chacun rentrés chez eux, il y aurait eu une grande difficulté de communication entre eux. Et celui qui résume le tout, c'est l'empereur d'Autriche, François Ier, qui dit, c'est un grand malheur, mais heureusement, il arrive au moment où nous sommes encore tous réunis. Et c'est ça qui va faire que le Congrès va très rapidement prendre des décisions dramatiques du point de vue de Napoléon.
Et c'est Talleyrand qui dit il faut plus attendre parce que quand il y a urgence, c'est que c'est déjà trop tard.
Voilà, c'est un mot de Talleyrand. Ouais. Lorsqu'une chose est pressée, c'est qu'il est déjà trop tard.
Alors après longues journées d'incertitude, donc le 9 mars, Napoléon a débarqué sur l'île, sur la plage du golfe Juan, reviendra à son projet tout à l'heure. Et puis il y a donc ce texte de résolution adopté le 13 mars 1815. Que dit concrètement ce texte?
Alors ce texte dit deux choses. La première, c'est que Napoléon est hors la loi. Il s'est mis de lui-même en dehors des lois de la civilisation et de l'humanité, et donc par conséquent, tout est possible concernant son sort. Voilà, hors la loi, il faut l'arrêter, il faut mettre fin à ses menées. Et la deuxième chose, c'est la conséquence, c'est que on ne discutera pas avec lui, quoi qu'il arrive. Il faut toujours se rappeler qu'il y a à peu près une grosse semaine de décalage entre le moment où les événements se produisent et le moment où Vienne les apprend. Le 13 mars, Napoléon est déjà en train de marcher sur Paris. Hein. Ouais. On ne sait pas. Alors on pense que le roi va résister, qu'il va y avoir une sorte de guerre civile, etc. Personne ne se doute que Napoléon va remonter à Paris presque les mains dans les poches.
Alors c'est un projet militaire qui se met sur pied, hein.
Oui, c'est un projet d'abord politique, diplomatique. On ne discutera pas avec Napoléon. Et puis immédiatement, dans la foulée, dans les jours qui suivent, on décide de mettre sur pied une grande coalition pour faire cesser les menées du hors-la-loi, hein, de l'usurpateur.
Et c'est Wellington qui va prendre la tête de cette...
Alors, Wellington quitte le Congrès, en effet, puisqu'il y représentait l'Angleterre, mais il quitte le Congrès pour venir ici, hein, pour venir à Bruxelles, puisqu'il va prendre le commandement d'une armée anglaise qui est stationnée dans la région de Bruxelles, un petit peu au sud d'ailleurs de Bruxelles, pour en fait, elle n'est pas là pour lutter contre Napoléon, puisqu'elle est là depuis des mois, elle est là pour assurer la création du fameux royaume des Pays-Bas, qui comporte les Pays-Bas actuels, la Belgique et le Luxembourg.
La difficulté aussi, c'est de dire qu'on ne fait pas la guerre à la France, mais bien à Napoléon.
Voilà, alors ça va être toute la subtilité de cette position diplomatique, c'est que les alliés, donc les coalisés, affirment ne pas vouloir faire la guerre à la France, mais à la seule personne de Napoléon. Mais évidemment, une fois Napoléon rentré à Paris, il représente un tout petit peu plus que lui-même.
Alors c'est quoi? C'est 150 000 hommes que l'on s'engage à mobiliser. C'est
oui,
énorme quand même.
Chaque puissance, alors chacune des quatre grandes puissances s'engage à mettre 150 000 hommes sur le pied de guerre. Les petites puissances, elles aussi, elles sont mises à contribution. Le royaume de Piémont, l'Espagne, les petits États allemands. Grosso modo, la coalition estime qu'elle pourra, à l'automne 1815, mettre en ligne à peu près 1 million d'hommes.
Nous sommes avec Thierry Lenz, Waterloo 1815, c'est l'ouvrage. On se concentre donc sur le départ de Napoléon, le retour de Napoléon qui est en route là, vers Paris.
Laurent de Hausset, un jour dans l'histoire.
Enregistrement de la reconstitution de la bataille où l'on se mobilise quelques heures avant la bataille. Thierry Lenz est avec nous. Alors l'aigle avec les couleurs nationales vole de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. C'est ce que dit Napoléon de lui-même. Hein. C'est ce qu'il dit à l'armée en mars 1815. Rien ne lui résiste sur son chemin. Il est arrivé, on l'a dit, à Golfe-Juan. Qu'est-ce qu'il fait après?
Alors, une fois à Golfe-Juan, il choisit de remonter, on va dire, vers Grenoble, puis Lyon, en remontant par les Alpes. C'est-à-dire que l'année d'avant, au moment où il s'est rendu à l'île d'Elbe, il s'est rendu compte que la Provence lui était très hostile. Il a même manqué à être assassiné au village d'Orgon, près d'Avignon. Et donc, au lieu de reprendre cette route où il sent qu'il va rencontrer des résistances, puis il y a beaucoup de troupes sur cette route provençale, il décide de remonter par des petits chemins jusqu'à Grenoble, par les Alpes. Et il va atteindre Grenoble facilement, enfin sans aucune opposition. Et c'est peut-être le seul endroit, Grenoble, où on peut imaginer qu'il y a eu une véritable conspiration pour l'aider à remonter vers Paris. Il y a eu des visiteurs grenoblois à l'île d'Elbe. Il y a à Grenoble tout un parti bonapartiste avec les frères Champollion notamment, et puis surtout le régiment de la ville de Grenoble est commandé par le colonel Labédoyère, qui va être le premier à rallier ses troupes à celles de Napoléon.
Il y a quand même cette rencontre particulière à Laffray, là je crois qu'on n'est pas très loin de Lyon.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Alors la rencontre de Laffray, c'est un moment qui pourrait apparaître légendaire. Ce sont des troupes envoyées par Louis XVIII pour barrer la route à Napoléon, qui barre effectivement la route à la petite armée napoléonienne. Et là, au lieu d'accepter le combat ou de préparer le combat, Napoléon s'avance seul devant les troupes. Il ouvre sa redingote et dit aux soldats « S'il en est un qui veuille tuer son empereur, me voici. » Et au lieu de tirer, évidemment, la troupe éclate en acclamations. Alors, c'est une histoire vraie. On en a la preuve, bien sûr, parce qu'elle a été beaucoup racontée, mais surtout parce qu'on dispose d'une lettre d'un particulier qui se trouvait là, qui a vu ça, et qui écrit à sa famille quelque chose du genre « Mais vous pouvez pas imaginer ce que j'ai vu aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Napoléon s'est avancé. » Et il raconte effectivement les choses comme elles se sont produites. Napoléon, là, a fait preuve de courage. C'était comme d'habitude un petit coup de poker. Il voulait pas que le sang coule. Donc, il a tenté ce coup-là et il a réussi.
Et c'est ce que craint Paris, c'est que l'armée ne bascule dans le camp de Napoléon.
Voilà, le seul, si vous voulez, on dit toujours que le retour de l'île d'Elbe est un retour appelé par la nation. Napoléon lui-même dira beaucoup « La France m'a rappelé ». En fait, c'est l'armée qui l'a rappelé. Hein. Et d'abord, sa remontée entre Golfe-Juan et Paris, ça dure 20 jours. Les gens n'ont pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Il y a des tas de gens qui ne sauront jamais que Napoléon est en train de remonter vers Paris. Ils le sauront quand tout ça sera terminé. Et donc, c'est véritablement, enfin moi je le dis souvent, c'est un coup d'état militaire, le retour de Napoléon, parce que les seuls véritables soutiens, ceux qui font peur à la royauté, ceux qui lui donnent sa force aussi, c'est le soutien de l'armée.
En même temps, vous dites le voyage va prendre un certain temps, parce que sur son chemin, les gens justement l'acclament, l'arrêtent, etc.
Voilà, alors il y a des endroits où effectivement la foule va le reconnaître, va venir au-devant de lui, c'est notamment le cas à Grenoble, hein, où l'entrée dans la ville se fait dans le délire, mais aussi à Lyon, une fois qu'il arrive à Lyon, il s'arrête 2 jours, parce que d'abord, il veut souffler, il veut voir un peu comment se déroulent les choses, et si vraiment le gouvernement royal va lui envoyer des troupes, va envoyer des troupes contre lui, et puis surtout, il fait quelque chose qu'il regrettera plus tard, c'est qu'il en appelle au sentiment révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il propose de lanterner les prêtres, c'est-à-dire de pendre les prêtres et les aristocrates, il prend un certain nombre de mesures qu'il appliquera jamais, qui sont des mesures révolutionnaires, bref, il se laisse un peu grisé par son propre succès.
Alors, quand est-ce que Louis XVIII va comprendre qu'il doit laisser la place et partir de nouveau en exil ?
Ouais, alors, Louis XVIII, d'abord, c'est un monarque qui n'est pas du tout un monarque du style de Napoléon. C'est un monarque qui règne, qui trône, c'est un homme obèse, c'est un homme qui est d'une intelligence absolument remarquable, mais jamais il ne va imaginer que son armée va l'abandonner, que son frère, le comte d'Artois, qu'il envoie à Lyon pour barrer la route à Napoléon, préfère, comme d'habitude, le comte d'Artois, futur Charles X, préfère se sauver. Deux ou trois jours avant l'entrée de Napoléon à Paris, Louis XVIII s'aperçoit que le roi est nu, là, pour le coup.
Alors, Napoléon apprend donc le départ de Louis XVIII. Il est là, au château de Fontainebleau, où il est abdiqué. D'ailleurs, il y a eu la première abdication en avril 1814. Qu'est-ce qu'il fait, alors, là ?
Alors, au lieu de rester à Fontainebleau pour attendre, comme il avait dit, qu'il le ferait, eh bien, il voit que il y a plus de pouvoir à Paris. Donc, il va reprendre son trône et donc il quitte Fontainebleau au matin du 20 mars 1815 et il remonte vers Paris. Mais alors, il va mettre un temps fou à remonter vers Paris. Il y a à peu près une quarantaine de kilomètres à faire. Il va mettre un temps fou parce que sur la route, il va être sans arrêt arrêté par des dignitaires qui viennent le saluer, par des troupes qui se joignent à lui, etc. Et on va avoir un véritable embouteillage de troupes, ce qui fait que finalement, il prend le fameux Caulaincourt dans sa voiture et puis il remonte avec une petite escorte tout seul vers Paris.
Parce que juste avant cela, avant qu'il ne remonte tout seul, il faut imaginer combien de centaines de personnes autour de lui
Non, c'est plusieurs milliers. Ah. Il est parti de Golfe-Juan avec 1000 hommes, il arrive dans la région parisienne avec 25 à 30 000. Hein. C'est vraiment une armée en marche, ça s'organise, ça prend du temps. Et lui, finalement, quand il apprend que Louis XVIII est parti, il sait très bien qu'il n'y aura aucune résistance pour son arrivée à Paris. Donc il peut remonter avec une simple escorte et quelques généraux.
Et Napoléon va s'installer aux Tuileries. Nous sommes avec Thierry Lenz.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30 sur la première.
Alors, vous le disiez, vous le rappeliez il y a quelques instants, Thierry Lenz, pour les bonapartistes, le retour de Napoléon est rendu possible par les faux de la monarchie, l'aspiration du peuple à voir revenir son empereur. Les royalistes, qu'est-ce qu'ils prétendent ?
Ah, les royalistes, mais comme assez souvent dans l'histoire de la Révolution française et de l'Empire, ils se sauvent. Hein. Ouais. Ils sont, on trouve absolument personne pour venir défendre la monarchie. Le roi quitte donc Paris dans la nuit du 19 au 20 mars avec une forte escorte, etc. Il y a un magnifique roman de Louis Aragon qui s'appelle La Semaine Sainte qui raconte cette semaine du départ de Louis XVIII. C'est à la fois Louis XVIII a voulu être majestueux, mais en étant majestueux, il est parfaitement ridicule parce que il va traîner. Les soldats de Napoléon vont tout faire pour ne pas le rattraper, c'est-à-dire qu'on aurait été bien embêté de le capturer. Donc on va simplement le pousser à l'extérieur du territoire. Il va d'ailleurs s'installer à Gand pendant cette période des 100 jours. Et à Paris, je dirais les royalistes qui sont restés, qui ne veulent pas servir Napoléon, ils vont tout simplement rester chez eux.
Il parle de complot, des forces occultes.
Voilà, alors on a parlé de complot, d'effectivement la maçonnerie, les anciens jacobins, etc. Tout ça est pas totalement exact. Hein. Comme je vous le disais, le seul vrai complot qu'on ait pu identifier, c'est celui de Grenoble. Sur le reste, les choses sont rentrées comme dans du beurre, comme on disait à l'époque. Il n'y a pas eu, la puissance du personnage de Napoléon a convaincu les chefs de l'armée de se joindre à lui.
Alors, l'Empire est de facto restauré. Il n'est pas complètement légitimé, on l'a compris. Il va falloir rassurer aussi les indécis, parce qu'il y en a encore. Il faut reprendre l'administration, réformer les institutions, convaincre l'Europe que Napoléon est décidé à vivre en paix avec elle. Et en cela, dites-vous, Thierry Lenz, dans votre ouvrage, Waterloo est autant un événement politique qu'une bataille.
Oui, en fait, tout ce dont nous parlons là fait partie de la bataille de Waterloo. C'est-à-dire que Waterloo n'est que l'aboutissement de cette période, c'est-à-dire à la fois du retour de Napoléon, évidemment, puisque là, il va falloir faire la guerre, mais surtout après de la façon dont Napoléon va gérer la situation intérieure et internationale. Sur le plan international, aucun contact. Là, pour le coup, les coalisés vont tenir promesse. Il n'y aura aucun contact avec le gouvernement napoléonien. Et puis, à l'intérieur, comme vous le disiez, Napoléon est forcé de faire des réformes, et notamment des réformes libérales, ce qui ne convient pas tellement à sa personnalité. Il ne sait pas comment faire avec les chambres. Pour se légitimer, il va organiser 3 élections pendant cette période des 100 jours. Il va les perdre toutes les 3. Mmh. C'est-à-dire que pour aux élections à la chambre législative, eh bien, ce sont, on va dire, des républicains modérés qui vont être élus en majorité. Aux élections municipales, les maires royalistes vont tous être maintenus partout. Et puis surtout, moyen de légitimation par excellence pour Napoléon, le plébiscite. Il organise un plébiscite sur la nouvelle constitution. Ce plébiscite est un échec total, hein, entre 15 et 20% de participation, alors qu'habituellement, on était plutôt au-dessus de 40%.
Il avait surestimé là, le pouvoir de son retour, l'aura de son retour.
Je crois qu'il a sans doute à la fois surestimé le fait qu'il arriverait à entrer en contact avec les puissances ennemies, puisque c'est ça, hein, son gros problème, c'est la guerre à ce moment-là. Bon, la gestion intérieure, il aurait réussi à s'en sortir. Mais ce dont il n'a pas mesuré aussi l'importance, c'est la façon dont la première restauration de Louis XVIII avait libéralisé la société. C'est-à-dire qu'en moins d'un an, Louis XVIII a créé d'abord une constitution presque parlementaire, il a libéré la presse, il a fait arrêter toutes les poursuites pour délit d'opinion, et ça, en période de guerre, Napoléon aurait eu besoin de ces armes-là, or il ne les a pas.
Et puis c'est le retour de l'Église au cœur de l'État aussi, et ça, c'est assez important dans la vision de Napoléon.
Oui, alors la Restauration a effectivement voulu remettre l'Église au centre du jeu, en refaire en quelque sorte une religion d'État. Napoléon a bien senti que pour une grande partie de la population plutôt attaché aux principes révolutionnaires, on va dire, non pas à la laïcité, mais ce qu'on appellerait plutôt la non-confessionnalité de l'État, il y avait là une carte à jouer. Et donc, il a effectivement créé à la fois des réseaux et des petites troupes de ce qu'on a appelé les fédérés, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont, on va dire, les révolutionnaires à qui on va donner peut-être un fusil pour défendre la patrie. Mais tout ça ne représente pas une vague dans cette France de l'époque. Paris va bien sûr se mobiliser, la région de Paris, les régions frontalière, parce qu'on a horreur des invasions, évidemment, mais le reste de la France va être, comment dire, l'ambiance va être un peu molle vis-à-vis du régime napoléonien.
Alors vous lisiez, les puissances internationales refusent de négocier, est-ce que ça veut dire qu'on envisage déjà la guerre ?
Ah, on n'envisage pas autre chose que la guerre à ce moment-là. C'est-à-dire que les troupes ont commencé à marcher. On le disait, Wellington arrive au mois de mai dans la région de Bruxelles. Les troupes prussiennes, il va y avoir un switch entre des troupes prussiennes pour que ce soit le corps, enfin, l'armée de Blücher qui se trouve en première ligne. Et les autres marchent. Il y a déjà 500 000 austro-prussiens qui sont partis. Le quartier général de la coalition se trouve à ce moment-là à Heidelberg. Donc pas très très loin finalement de la frontière française. Il y a des troupes qui marchent aussi depuis l'Italie et les Espagnols essayent de monter une armée. Donc Napoléon se trouve dans une France à la fois assiégée, on ne veut pas discuter avec lui, mais dans une France très menacée. Et c'est pourquoi il choisit de tenter une sortie vers chez vous, vers Bruxelles, vers Waterloo.
Ça veut dire que Napoléon n'avait pas, lui, envisagé à son retour de partir en guerre.
Écoutez, je crois que quand même, on peut dire qu'il a compris assez vite que tout ça se terminerait sur des champs de bataille. Parce que il a consacré, donc sur les 100 jours, donc mettons sur les 3 mois, il reste plus de 2 mois et demi à Paris, il les consacre presque exclusivement à l'organisation de l'armée. C'est-à-dire qu'il s'occupe pas du reste. Il laisse ses ministres s'occuper de l'administration, de l'église, etc. Lui, il s'occupe 24 heures sur 24 de l'armée. Il s'occupe même pas de la politique étrangère. Il laisse son ministre Caulaincourt s'en occuper et Caulaincourt n'arrivera pas à faire passer une seule lettre à Vienne.
On parlait des indécis, hein, toujours autour de Napoléon. Comment va-t-il pouvoir les convaincre?
Alors c'est justement pourquoi, c'est aussi Waterloo bataille politique, si l'on peut dire, c'est aussi pour ça qu'il décide d'attaquer si vite, et il décide d'attaquer en direction d'abord d'un objectif, à mon avis, hein, ça je sais que beaucoup d'historiens en discutent, mais je pourrais, si on avait le temps, l'éterrer. Son premier objectif, c'est Bruxelles. Bruxelles, c'est une grande ville, c'est une ville que lui pense francophile, il pense qu'il va y trouver du soutien. Ça sera un choc énorme pour l'Europe s'il réussit à prendre Bruxelles, et en plus, pour prendre Bruxelles, il doit bousculer deux armées qui sont au fond de la taille de la sienne. Ça, il sait faire. Alors que partir vers l'Est contre 500-600 000 Austro-Prussiens, ça aurait été plus difficile. Et les toutes premières dispositions qu'il prend, c'est véritablement, on peut dire qu'il dégarnit les garnisons et il crée ce qu'on a appelé l'armée du Nord, l'armée de Waterloo. C'est vraiment l'armée des meilleures troupes, ou on pourrait même presque dire des moins mauvaises à ce moment-là.
À son retour de l'île d'Elbe et donc à sa réinstallation au pouvoir, il reste moins de 4 mois avant que l'armée de Napoléon ne soit défaite à Waterloo. Le 18 juin 1815, on aura bien sûr l'occasion de revenir sur cet épisode. Il y a, en attendant, donc votre ouvrage, Thierry Lenz, qui paraît chez Perrin. Waterloo, 1815. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thierry Lenz.